dans la cour des grands. Une émission réalisée par les élèves du collège Jacques Prévert de Pont-Vallin.
Bonjour à tous les auditeurs qui nous rejoignent dans la cour des grands. Cette semaine, nous invitons Monsieur Jean-Claude Després, historien spécialiste de la Grande Guerre. Monsieur Després réside dans le Bélinois, à Saint-Ouen. Il a donc également mené de nombreuses recherches autour de la résistance en France et dans la Sarthe pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Il a répondu à notre invitation pour aborder cette résistance en zone occupée et plus particulièrement celle du sud de la Sarthe. Cette période est étudiée et ce mouvement étant très riche, l'entretien que nous avons réalisé fera l'objet de plusieurs émissions. Mais avant de commencer, écoutons l'épisode numéro 5 du Tueur Maléfique, raconté par Steve.
L'histoire du Tueur Maléfique, présenté et écrit par Steve, 5e épisode. Précédemment, Minato attaqua avec des dizaines de jutsu, principalement du Raiton. Jiraiya s'est mis en mode ermite et a expulsé Ichiki. Minato et Jiraiya utilisa l'attaque l'envol du dieu de la foudre pour se téléporter à Konoha. Minato utilisa une barrière magique qui rend invisible le village de Konoha. Jiraiya développa une nouvelle attaque, les épines collatéraux, et Minato développa son Rasengan en orbe shuriken tourbillonnant. C'est un jutsu futon. Minato et Jiraiya se défient en duel pour tester leurs nouvelles capacités. Jiraiya commença doucement avec une attaque katon, boule de feu suprême. Minato esquiva tranquillement. C'est normal parce que c'est le ninja le plus rapide du monde. Minato utilisa son Rasengan, l'orbe tourbillonnant, et Jiraiya contre-attaque avec Doton, le mur de pierre. Minato enchaîna avec son attaque, orbe shuriken tourbillonnant, et Jiraiya attaqua avec l'épine collatéraux. Mais l'attaque de Minato est beaucoup plus puissante. Il termina le combat. Minato dit « On dirait que l'élève a dépassé le maître !» Que va-t-il se passer ? On le saura dans le prochain épisode du Tueur Maléfique. À suivre.
Nous sommes de retour sur notre plateau.
Monsieur Després, bonjour.
Bonjour.
Pour vous interviewer, nous avons Célian.
Bonjour.
Jade.
Bonjour.
Marie.
Bonjour.
Steve.
Bonjour.
Et Solal.
Bonjour.
Qu'est-ce que le métier d'historien ?
Une passion. Moi, je suis un historien militaire. Hein. Je suis colonel en retraite. J'ai fait toute une partie de ma carrière en commandement et toute une partie, après, en recherche au niveau des archives militaires. Je suis spécialisé sur la Première Guerre mondiale, mais là, pour mes recherches personnelles sur la résistance dans la Sarthe, j'ai fait une enquête, j'ai fait du travail de recherche, j'ai interviewé des gens, j'ai été voir les survivants, etc., etc., pour pouvoir transmettre. Donc un historien, c'est ça, c'est quelqu'un qui cherche à retrouver toutes les pistes par rapport aux questions, par exemple, que vous allez poser, et qui essaie de trouver des réponses.
Depuis quand faites-vous ce travail ?
Ben, écoute, j'ai toujours fait ça. Moi, je suis, je suis militaire depuis que j'ai 12 ans. Puisque mon papa a été arrêté par les Allemands, et que ce fait, j'étais pupille de la nation. Et à partir de ça, j'ai fait l'école d'enfants de troupes, le prix tanné de la flèche. Le concours de Saint-Cyr, l'école militaire, etc., etc. Donc voilà la ligne. Quand on est à l'école militaire, on a des choix, comme quand on est au lycée, soit on fait des mathématiques, des sciences physiques en dominante, soit on fait de la littérature, moi j'ai fait de l'histoire. Bon, voilà.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la résistance et rappeler un peu à nos élèves à peu près quelles sont les dates ? Et puis après, on parlera de la résistance un peu plus dans le sud de la Sarthe.
Je vais essayer. Parce que c'est pas simple. Le sud de la Sarthe, c'est la région de l'ouest de la France qui est la plus compliquée au niveau résistance. On verra après, je vous expliquerai pourquoi. Bon, la résistance, c'est quoi ? La résistance, c'est quand on n'est pas d'accord avec quelque chose et qu'on s'y oppose. Et là, on n'était pas d'accord avec quoi ?
La guerre.
Les Allemands.
Enfin, les Allemands, les nazis.
Avec les Allemands qui envahissent la France et qui décident de s'installer là. En 1940, on va faire 1940-1945, en gros. En 1940, l'armée française est enfoncée par l'armée allemande, tout ça parce que on n'avait pas cru l'armée française qui était la grande gagnante de la Première Guerre mondiale, n'avait pas cru qu'il était nécessaire de faire un effort d'armement. Vous entendez peut-être parler de ça à la radio en ce moment et à la télévision, on va mettre du crédit pour faire de l'armement, etc. Or, les Allemands, eux, avaient décidé de s'équiper, alors qu'ils étaient en interdiction de s'équiper, donc ils sont passés en dehors des interdictions, et ils ont joué une carte que les Français n'ont pas jouée, en particulier, c'est l'arme blindée, les chars d'assaut, les armes modernes de l'époque. Et les Français se sont retrouvés avec, j'allais dire, des lance-pierres contre des chars d'assaut, quoi. Bon. C'est presque rien. Ils se sont battus, ils se sont très bien battus. Le régiment du Mans, un des régiments du Mans, le 117e régiment d'infanterie, a perdu 4/5 de ses soldats tués. Un régiment, c'est 1500 hommes. Et là, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus d'essence pour mettre dans les camions. C'était la débâcle. Les Allemands arrivaient de partout. Les Allemands avaient développé aussi une aviation de combat très performante. Vous avez vu ça sûrement à la télé, les avions Stuka, qui sont des avions avec des ailes comme ça. Il y avait une sirène dans le nez. C'est bien que quand ils descendaient, il y avait un hurlement de sirène. C'était épouvantable. Et ils lâchaient leurs bombes à ce moment-là. Donc il y avait un effet psychologique qui était là-dessus. L'armée française battue, elle va reculer devant les Allemands, elle va reculer, elle va passer la Seine, elle va arriver petit à petit. Et là, ça va se faire dans le bazar le plus complet, parce que les routes sont encombrées. Et par quoi ?
Par les gens qui fuient l'avancée des Allemands.
Voilà, t'as tout compris. Les gens qui fuient devant les Allemands, donc il y a sur les routes, il y a des familles entières avec des chevaux, des charrettes, des brouettes, à pied, des vélos, et qui vont vers le sud, le plus possible, pour échapper à l'armée allemande qui est derrière. Une partie de l'armée française va se mélanger avec ces gens-là, et ça va être une période très très difficile pour manger, pour dormir. Et là-dessus, il ne faut pas oublier que les Allemands attaquent sans arrêt. Tous ces gens-là ne s'occupent pas s'il y a des civils. Hein, les avions attaquent les gens sur la route, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Donc, ces gens sur la route, on a appelé ça l'exode. Les Allemands sont derrière. Une partie des troupes françaises sont faites prisonnières. Les soldats sont mis dans des camps en attendant. Et il y a une déclaration officielle. Hein, le chef de l'État français à ce moment-là, c'est le maréchal Pétain, et qui dit, on arrête tout ça, on demande que les combats arrêtent, et on demande à coopérer, à faire une collaboration avec les Allemands. Alors pour une partie des gens, c'est inacceptable. Tous ceux qui ont fait la guerre de 14 n'acceptent pas la collaboration. Mais ils acceptent le maréchal Pétain, parce que c'était le vainqueur de Verdun. Vous saisissez ça ? C'est un peu compliqué ?
Oui.
Ça va ? Bon. Donc, en 1941, les Allemands s'installent partout. C'est dans un petit chemin, vous allez rencontrer deux soldats allemands, puis l'un, vous allez rencontrer d'autres. Et là, dans la zone où on est là, les Allemands vont s'installer sur deux endroits très importants. Aubinière à Caen et Thorée. À Thorée, ils vont construire un camp de prisonniers en premier pour mettre tous ces soldats français qui sont en déroute et qui s'en vont. Et après, ça va devenir un camp important, un gros dépôt de munitions pour la guerre. On en reparlera plus loin. Et à Aubinière à Caen, c'est un gros dépôt de munitions, mais c'est aussi quelque chose qui va inquiéter beaucoup, c'est que dans les caves souterraines d'Aubinière à Caen, on va se mettre à construire des fusées. Et ces fusées-là vont être faites pour tirer sur l'Angleterre. Alors vous voyez, de Aubinière à Caen à l'Angleterre, ça fait quand même...
Ça fait grand. Ça y a beaucoup.
Disons Londres, ça fait 600 km en ligne droite. Et ces deux zones-là sont des zones que les Allemands vont chercher à protéger par tous les moyens. En 1941, le gros problème, c'est manger. C'est le ravitaillement. Parce que les Allemands prennent tout. Et les Français, ils ont le reste. Donc, trouver à manger, envoyer des colis quand même pour les prisonniers. On a 1,5 million de prisonniers à peu près, hein, qu'il va falloir nourrir. Or, on n'a rien à manger. À la campagne, comme ici, on arrive à s'en sortir. Parce qu'on a un petit bout de jardin, parce qu'il y a des poules, parce qu'il y a des lapins, parce que... Mais en ville, on n'a rien. Et donc là, il va se dire comment on va s'en sortir de ça. Au milieu de 1941, une fois que les Allemands sont installés, on décide de virer tous les conseils municipaux. Toutes les municipalités, le maire, le conseil municipal, qui existait avant, vont être dissous. Et on va élire un nouveau conseil municipal, mais avec des gens désignés. Vous allez élire celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont favorables au régime du maréchal Pétain, et d'autres qui sont favorables aux Allemands, carrément. Alors vous pensez que ça va créer une ambiance qui n'est pas très sympa. Ça va être le début du rationnement. Et là, on va donner aux gens des nouveaux papiers d'identité, une nouvelle carte d'identité nationale. Et avec, on va donner des tickets. Si on fait une prochaine émission, je vous en apporterai. Les tickets, c'est des cartes, c'est des timbres. Et des timbres qui ont une valeur. Donc chaque famille, on dit qu'une famille de 3 enfants va toucher 40 timbres de pain. Un timbre, c'est 100 grammes. Et ça, pour un mois. Vous faites le calcul ?
Ça fait 4000 grammes de pain par mois.
Ouais.
On va couper ça, puis on va donner ça par petits bouts. À la campagne, on a encore de la chance, parce qu'à la campagne, on a gardé des fours à pain. À la campagne, on a gardé on va réussir à récupérer du blé, à faire de la farine. Il y a des petits moulins sur les ruisseaux tout autour de Pont-Vallin, là, par exemple, qui vont être remis en marche, qui ne marchaient plus depuis presque un siècle. On les remet en marche, on refait de la farine. Et bon, il y a tout un nouvel esprit qui est en train de se mettre en place. On va mettre aussi en place le gouvernement, ce qu'on va appeler la défense passive, c'est-à-dire c'est des civils habillés en militaires qui vont être là pour aider les gens qui vont être touchés par les bombardements. Les avions vont détruire les maisons, ça va brûler, etc. La défense passive va venir pour déblayer les décombres, essayer de sortir les gens de là-dessous, pour faire le mieux possible. On a plus d'armée, on peut pas mettre quelqu'un d'autre. Donc on fabrique un nouveau système. En 1942, ça fait déjà, on arrive dans la troisième, troisième année de guerre, le trafic pour manger augmente. C'est-à-dire les gens, on va mettre en place ce qu'on appelle le marché noir. Vous avez entendu parler de ça ?
Oui.
Le marché noir, c'est des gens qui vont aller dans les fermes récupérer des œufs, des lapins, des poules, des fruits, et qui vont les ramener dans les villes, soit pour leur alimentation personnelle, soit pour les vendre, c'est-à-dire pour faire de l'argent. On fait de l'argent sur la misère des autres.
C'est illégal.
Tout est illégal.
Oui.
Mais à partir du moment où on dit que les Allemands sont là de manière illégale. Et donc la réponse est tout est illégal et on fait ce qu'on peut pour survivre.
Oui.
Alors il y en a qui le font en respectant les autres, et il y en a qui font de l'argent, c'est illégal, et ils en profitent.
Oui.
Cette période-là, pour les enfants, c'est la période des patates et des doriforts. Est-ce que c'est que des doriforts ?
Oui.
Vas-y, raconte.
C'est des espèces de petits scarabées qui mangent les pommes de terre.
C'est ça, c'est des petits scarabées avec des rayures sur le dos. Or, les doriforts, aujourd'hui, on n'en trouve plus parce qu'il y a les traitements chimiques, etc. Mais là, les doriforts, il y en avait partout. Et les écoles étaient obligées d'aller ramasser les doriforts. Et chaque élève avait une petite boîte et il ne pouvait partir que quand sa boîte était pleine de doriforts. C'est sympa, hein ? Bon, on a fini, vous allez ramasser les doriforts. Ça, c'est une période qui a marqué beaucoup les enfants. Moi, j'étais trop petit pour le faire, mais vous seriez allé ramasser les doriforts, ça c'est sûr. La résistance, bon, elle continue par petits groupes. Alors la résistance, là, c'est le bœuf à bas. On embête les Allemands. On dégonfle les pneus des camions, on met des pierres de sucre dans les réservoirs à essence, on fait un tas de choses comme ça, mais qui coûtent très cher. Parce que quand on est pris, non seulement on est battu, et battu parfois à mort, et surtout on est arrêté. Et si on est un petit gars ou une petite fille de 12, 13, 14 ans qui fait ça, eh ben on arrête papa, maman en même temps. Et là, les parents commencent à dire, pas de bêtises, hein, faut pas faire ça, bon... Il y en a d'autres où le papa, il le fait aussi.
Oui.
Et il emmène son fils ou sa fille pour montrer comment on fait. Sachant très bien que ça risque de coûter la vie de l'un et de l'autre. Parce que les Allemands rigolent plus du tout avec ça. Pour eux, c'est un acte de guerre. Au 1er juin 1942, les Allemands vont changer complètement leur politique de répression. C'est-à-dire qu'à partir de tous ces petits trucs-là, ils vont mettre en place un système pour être plus dur, pour faire payer plus cher. Et ils vont installer un système de police nouveau. Ils avaient la police civile. Alors la police civile relevait d'un commissariat central. Il y avait la police militaire qui était la SD, qui était elle dans les commandes en tour. Et là, on met en place la police Zippo. Et cette police-là, c'est une police complètement autonome, conduite par les SS. Les SS, c'est un corps particulier nazi. Il faut être absolument nazi pour être dans la SS, sauf à la fin où on va y mettre tous ceux dont on veut se débarrasser, en particulier les Alsaciens lorrains qu'on va mettre là-dedans parce qu'on va les envoyer sur le front russe. Et le Sud-Sarthe va être coincé entre trois villes, Angers, Tours et Le Mans. Vous voyez ça dans votre tête ? Un triangle. Et il est dans le Sud-Sarthe. Et le Sud-Sarthe, il est en plein dans le milieu. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir
le Lude, la Flèche, Château du Loir, et puis un petit peu, en remontant vers le nord, jusqu'à Serrefour-le-Tourte à peu près. Vous voyez un peu ce qui va se passer ? C'est-à-dire que dans cette zone-là, ça va devenir très très difficile de faire de la résistance. Parce que vous allez tomber dans une zone ou dans l'autre, et quand vous tombez dans l'une et que vous vous accrochez, l'autre va venir aider. C'est pigé ça ? Vous avez compris comment ça marche ?
Oui.
Cette arrivée-là va entraîner autre chose, c'est l'arrestation des Juifs. Toutes les personnes classées comme juives, il y a eu un inventaire de faits, on a le nom, le prénom, le nom, et ces gens-là vont devoir porter
une étoile.
L'étoile jaune. Et là, vous vous rendez compte que ça commence à poser des problèmes. Dans le sud, ça, il y a plein de gens qui vont immédiatement sauver les Juifs. En partie du cul, les enfants au départ, qui vont amener chez eux. Ils vont changer leur nom. Parfois, ils vont être séparés. Une famille de 5 enfants va être mise dans 3 familles françaises non juives. Et ces gens-là vont être... Alors, il y a un exemple, je parle de chez moi, de Saint-Ouen-en-Belin, où il y a 2 familles, juste parmi les justes, qui, pour une, la famille Landau, a sauvé 60 enfants, pas tous en même temps, par petits bouts, après les emmener ailleurs pour les faire évacuer, etc. Mais les a sauvés là-dessus. Et la famille Lefebvre, qui, elle, a sauvé 3 familles. Mais c'est des familles de 6-7 membres chaque fois, qu'ils ont mis chez eux, qu'ils ont cachés, qu'ils ont nourris. Mais là encore... Mais...
C'est aussi de la résistance de faire ça.
Mais bien entendu que c'est de la résistance. Bien entendu que c'est de la résistance. La résistance, c'est pas forcément les mitraillettes et les bombes. Ça, c'est de la résistance. Et c'est de la résistance qui a coûté très cher à certains. Ceux qui étaient pris à faire ça étaient considérés comme des criminels. Et ils subissaient le même rôle. C'est-à-dire qu'ils allaient à Drancy, puis après Drancy, ils parlaient dans un camp de triage, puis après ils parlaient en déportation en Allemagne dans les camps de concentration.
Pourquoi les Juifs, ils n'ont juste pas changé de nom ?
Parce que les Juifs ne pensaient pas que ça arriverait. Ils pensaient que la violence humaine n'irait pas jusque-là. Et c'est arrivé d'un seul coup. Donc ils n'ont pas eu le temps de changer de nom, ils ont gardé leur nom. Ils étaient fiers de garder leur nom. Si on te demandait de changer ton nom, toi, qu'est-ce que tu ferais ?
Je dirais non.
Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Et les gens qui les ont fait changer de nom, c'est les gens qui les ont cachés chez eux. Ou ils leur ont donné des noms français, tout simplement parce qu'il fallait qu'ils aillent à l'école. Et qu'à l'école, s'ils portaient un nom reconnu comme étant un nom juif, les autres enfants seraient rentrés chez eux en disant à l'école on a des juifs et t'as des parents qui trouvaient rien de mieux que d'aller à la commandanture et puis de dire dans telle école il y a des enfants juifs. Il y a eu des Français qui ont fait ça, hein, et ceux qui faisaient de la résistance, puis il y avait ceux qui faisaient de la collaboration.
Où est-ce qu'il y avait une commandanture?
Alors il y avait une commandanture dans chaque chef-lieu de canton. Mais la commandanture générale était au Mans.
Oui.
Après, tu avais 3 commandantures secondaires qui correspondaient aux sous-préfectures.
Donc, la Flèche.
À la Flèche, à Sablé, à Mamers. Donc, il y a la commandanture centrale et puis des commandantures secondaires avec chacune une responsabilité. En gros, ils avaient la répartition des gendarmeries actuelles françaises.
Ok.
En gros.
Mais alors, vous parlez de résistance des enfants, mais on a une particularité quand même dans le Sud-Sarthe, c'est qu'on a beaucoup de caves. Quel risque prenaient ces familles à faire de la résistance? Elles pouvaient aussi peut-être bien se cacher dans le secteur.
Ah oui. Bon, les caves, ça sert à faire du vin. Non, il y a effectivement beaucoup de caves sur toute la vallée du Loir, bon, ce qui s'y donne l'importance de la vallée du Loir. La vallée du Loir, c'est un axe de pénétration sur Vendôme. Vendôme, c'est la ligne directe sur Paris après. Les caves troglodytes, certaines sont très compliquées, même encore aujourd'hui, il y en a qu'on n'a pas complètement exploré jusqu'au bout, parce qu'elles ont été murées. Et c'est un endroit magnifique pour cacher des gens, mais aussi pour cacher les armes. Pour avoir des armes, à partir de 1943, il y avait des parachutages. On a vu que dans la résistance, il y avait la résistance française, qui était liée à quoi ? Au général de Gaulle.
Oui.
Et avec les Français d'Angleterre. Et puis, il y avait des groupes d'intervention anglais, des groupes d'intervention américains, qui, eux, travaillaient différemment. Dans le premier cas, la petite résistance locale, j'ai dit, c'est comme le match de foot dans la cour de l'école. Et après, quand on rentre dans la résistance structurée, c'est quand on est dans une équipe de foot qui est reconnue, classée, avec une hiérarchie de commandement dessus. Mais dans les deux cas, on joue au ballon.
Il y a un moment, le général de Gaulle, il est parti en Angleterre, donc ça devait être un peu le bazar.
Mais il est parti en Angleterre, tu sais pourquoi ?
Non. Ah, parce qu'il avait peur du maréchal Pétain ? Non.
Parce qu'il était condamné à mort en France.
Oh.
Le gouvernement français l'a condamné à mort, et il n'y avait qu'une solution. C'était partir, mais il aurait pu aussi partir pour ne rien faire. Il est parti en Angleterre pour monter un système de résistance.
Mais pourquoi il a été condamné à mort ?
Il a été condamné à mort tout simplement parce qu'il n'était pas d'accord avec le maréchal Pétain d'une part, et d'autre part, il a fait un appel. Vous avez entendu parler de l'appel du...
Oui.
Et qu'est-ce qu'il a dit dans cet appel-là ?
Ils ont dit aux résistants de continuer parce que les Anglais, ils allaient continuer, enfin, ils allaient venir.
Voilà. C'est... Il leur a dit, faut pas coucher les pouces. On continue la guerre et on y va et on résiste. Les Alliés, les Américains et les Anglais, eux, ont dit, on n'a pas confiance aux Français qui sont restés parce que ils ont accepté la collaboration. Et donc, ils vont envoyer des agents qui vont parachuter par deux, un commandant militaire et un officier radio, pour pouvoir communiquer sans fil directement avec l'Angleterre ou avec les États-Unis. Les parachutages, ils vont commencer en 1942. Ici, on va en avoir qui sont tombés pas loin.
Mais les Allemands, ils n'avaient pas mis des pièges pour les parachutistes ?
Les Allemands, ils ont tout fait pour pas que ça se fasse, ça c'est certain. Mais les parachutistes, ils ne pouvaient pas tomber tout seuls comme ça. Il fallait d'une part un plan, en disant qu'ils allaient tomber à tel endroit, etc. Donc là, une transmission radio. Donc au début, on envoie un patron et un radio, qui, eux, vont informer Londres ou Washington de ce qui va se passer. Ils vont rester sur place et ils vont chercher à agrandir faire ce qu'on va appeler un réseau. C'est-à-dire qu'il y en a deux qui sont tombés là. Ils vont rencontrer un groupe de Français qui, eux, résistent. Et ils vont leur demander de les mettre en contact avec un autre groupe. Les groupes sont pas plus de 10. C'est un grand maximum. Après, ça devient dangereux. Et à partir de là, ils vont envoyer des informations en disant, on a au Béni-Racan, il faut ficher ça en l'air, c'est trop dangereux de garder ça, il faut détruire les fusées, et donc qu'est-ce qu'on va faire ? Ils vont passer des messages radio, ils vont envoyer tous les renseignements sur Aubigny-Racan, et ils vont organiser un bombardement énorme en fin 1943, où ils vont mettre 70 bombardiers lourds à Halifax, et ils vont mettre à peu près 70 tonnes de bombes sur chaque zone. Comme dessous, c'est des dépôts de munitions, vous imaginez que ça va partir partout, Même encore aujourd'hui, on avait un projet pour faire un parc photovoltaïque. Et on s'est aperçu qu'il y avait trop d'explosifs qui étaient au sol. Et il y a toute une partie où on a abandonné parce que ça coûterait trop cher d'enlever toutes ces... Or, ces bombes-là, 44. Hein. Donc, les autres renseignements, c'est toute une série de renseignements qui renvoient les numéros matricules des camions allemands qui permettent de savoir quelle unité c'est, qu'est-ce qu'ils transportent, dans le camp de Toré, quelles munitions il y a, pourquoi faire, comment ils s'organisent, etc., etc.
Alors là, c'est une résistance plutôt en lien avec De Gaulle, donc une résistance de l'armée.
Là, c'est que des professionnels qui sont dessus, mais qui ont besoin absolument des groupes de résistance civile
sur place.
Qui sont sur place. Et pour arriver à monter un système qui fonctionne. L'idée, c'est de sauver par tous les moyens le parachuté et son radio. Parce que s'ils les prennent, ceux-là, il n'y a plus moyen de communiquer, il n'y a plus de relations. Et donc, il faut. Alors, ces gens-là, on va les trimballer, on va les planquer dans les familles, on va les mettre. Ils vont émettre autour de Pont-Vallin, le Flodge et son radio vont faire à peu près 40 maisons dans toutes les communes autour pour émettre un peu de radio là, le matin. Et puis après, ils vont déménager en vélo, ils vont partir. Mais il faut trimballer le poste de radio. Le poste de radio, c'est une valise, c'est comme ça. Il ne faut pas tomber dans les pattes des Allemands, parce que ça va mal se passer. En 1943, il va se passer quelque chose aussi d'important. Le régime du maréchal Pétain a été obligé, par les Allemands, de supprimer le service militaire. L'armée française est coupée en deux. La France est coupée en deux, avec une zone nord et une zone sud. La zone sud n'est pas occupée par les Allemands, elle est occupée par une armée française dite d'armistice. Et donc, cette armée d'armistice, c'est des Français, et il ne se passe pas grand-chose dans la zone sud. Il y a des restrictions, parce que les Allemands demandent à ce qu'on leur envoie à manger, etc., etc. Mais les Allemands ne sont pas présents jusqu'au milieu de 1942. Le service militaire est supprimé. Et qu'est-ce qu'on va mettre à la place? On va mettre le service du travail obligatoire.
Le STO.
Le STO. Alors tu sais qu'au début, c'était pas le STO. C'était le SOT. Mais ça faisait saut. C'était le service obligatoire du travail, mais ça faisait saut, et les Allemands s'en sont aperçus en disant « ça c'est trop facile, ils vont réagir là-dessus en disant « on ne prend que les sauts ». Donc ils ont changé, et ils ont mis STO. Le STO, c'était les gens nés en 1920-21-22, mon père était dans les STO, et ils attendaient qu'on les place quelque part. Ils avaient fait un système de relève avant, qu'avaient proposé les Allemands, en disant vous avez besoin de main-d'œuvre, vous avez besoin que les hommes rentrent à la maison, les enfants ont besoin de leur père, etc. Donc on va libérer des prisonniers de guerre français en échange de jeunes Français qui viendraient travailler en Allemagne. Mais le prix était cher, c'était 1 pour 10. Un prisonnier rentré pour 10 jeunes qui partaient. Et donc il y a eu des volontaires au départ. Et puis ils ont vu que ça marchait pas. Donc ils ont décidé de mettre le service du travail obligatoire. Et pas uniquement en Allemagne. Hein. Le service du travail est obligatoire et beaucoup ont été pour construire les blocos du mur de l'Atlantique contre une éventuelle invasion, pour faire un certain nombre de travaux, construire des camps de prisonniers, faire des choses comme ça. Mais le STO, ben, ça n'a pas été un enthousiasme général. Les gars, ils n'avaient pas envie d'y aller. Je dis les gars au début, parce que les femmes n'étaient pas conviées au STO. Sauf qu'à un moment donné, à la fin de 1943, on a commencé à appeler des femmes au STO. Et là, on a commencé à dire c'est beaucoup trop. On ne va pas supporter ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les gars du STO ? Eh bien, ils se sont sauvés. Ils ne sont pas allés aux convocations. Et c'est là qu'ils sont allés dans les bois, ils sont allés se planquer à droite à gauche. C'est là qu'on a créé ce qu'on appelle les maquis. Les maquisards, c'est ces gens-là qui vont se mettre dans les bois, qui vont attendre et puis qui ne savent pas trop quoi faire au départ, qui vont donner un coup de main aux paysans du coin. Et puis petit à petit, la résistance va s'organiser militairement et on va les mettre dans des maquis armés. En zone nord comme en zone sud. Donc en zone sud, c'est tous les grands maquis. Vous avez entendu parler des maquis des Alpes ?
Oui.
Oui ?
Oui.
Bon. Et donc, ça va se mettre en place. Et ici, on va dire, on va pas aller travailler pour les Allemands.
On ne va pas aller travailler pour les Allemands. Vous entendrez la suite de cet entretien la semaine prochaine et vous découvrirez comment les habitants de la vallée du Loir ont tenté de manifester leur refus du STO devant les Allemands. Et vous aurez peut-être reconnu la musique de Django Reinhardt. Django Reinhardt, ce guitariste qui a fait danser les clubs parisiens avec son swing manouche pendant l'occupation allemande, alors que la musique jazz était interdite. L'extrait ici diffusé s'intitule Nymphéas. Il a été enregistré le 31 mars 1942. Merci Monsieur Després, Célian, Solal, Marie, Jade et Steve pour cette première partie d'émission. À samedi prochain sur Radio Prévert.